grande critique.
Les fake news, on les décortique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau format d'émission présenté par les élèves du Collège à Moulins. Bienvenue sur Zone Critique. Les SECPA décortiquent l'info.
Aujourd'hui, nous réservons deux invités de marque pour discuter d'un fait divers survenu dans un des collèges de Toulouse. Restez branchés, on se retrouve juste après avoir écouté le morceau Bella Ciao, version de la série La Casa de Papel.
Pour des raisons de droit d'auteur, le morceau initialement diffusé sur Radio Mon País a été supprimé.
De retour sur Zone Critique, vous écoutez 90.1 Radio Mon País.
Tout de suite, écoutant cet incroyable fait divers à Toulouse dont nous avons entendu parler.
Ça dégénère pour un chulo quatre couleurs.
Cette histoire a commencé en plein cours d'histoire géo de 14h à 15h. On aurait aimé que cette histoire n'ait jamais eu lieu. En plein milieu du cours, Afed demande à Jean-François de lui prêter un stylo quatre couleurs. Il ne savait pas à ce moment-là que tout allait basculer. Jean-François lui prête un, mais Fatima remarque alors que c'est le même stylo que le sien, qu'elle avait perdu. Elle commence à harceler Jean-François pour qu'il lui rende. Le ton monte entre les deux camarades. Jean-François et Fatima continuent à s'embrouiller car Fatima accuse Jean-François de lui avoir volé son stylo.
Ce stylo est commun, on peut le trouver dans tous les commerces. D'ailleurs, Malika montre elle aussi le même stylo, identique en tout point.
Le prof intervient en plein milieu de la dispute et leur dit de se calmer. Fatima gifle alors Jean-François et le menace de ramener son grand frère à la sortie du collège à 16h. Jean-François lui dit qu'il s'en fout et qu'elle peut ramener qui elle veut.
Tout aurait pu s'arrêter là au stade des paroles, mais tout va s'accélérer en un clin d'œil. Comme promis, le frère de Fatima attendait à la sortie du collège à 16h. Il saute sur Jean-François pour venger sa sœur et récupérer le stylo 4 couleurs. Il lui arrache son sac à dos, lui jette toutes ses affaires au sol et prend le stylo. Jean-François ne se laisse pas faire. Il aperçoit sa paire de ciseaux devant lui et s'en sert comme une arme. Il se précipite sur le frère et lui plante ses ciseaux dans le cou. Les frères meurent en quelques minutes malgré l'intervention des secours qui n'ont pu le sauver. Il avait été touché à l'artère carotide. Jean-François, interrogé par la police, a demandé s'il pouvait récupérer son stylo que le frère de Fatima lui a volé.
Après l'enquête, la police a décidé de laisser partir Jean-François après avoir récupéré l'objet de la dispute.
Nous continuons sur Zone Critique, vous écoutez 90.1 Radio Mon País.
Oh, t'as vu ce qu'il s'est passé, c'est un truc de ouf.
Mais non, c'est du mytho.
Demandez à Madame Athanase si elle en a entendu parler.
Bonjour, alors oui, j'en ai entendu parler et justement, je crois que je suis ici pour en parler avec vous.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Madame Athanase, avec un S, et je suis documentaliste et non pas bibliothécaire, au collège Jean Moulin, le collège des enfants. Autour de cette table, donc dans le cadre de mon métier, je fais ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. Donc je suis censée leur apprendre à justement vérifier leurs sources, savoir faire des recherches sur Internet.
Avez-vous entendu parler de cette histoire ?
Alors oui, j'en ai entendu parler, c'est quand même incroyable.
Qu'en pensez-vous ?
Eh bien écoute, ce que j'en pense, c'est qu'il y a une matière, on pourrait imaginer que ça pourrait être réel, une histoire pareille, parce qu'on vit quand même dans un monde de fous. Qui aurait cru il y a encore quelques années que des terroristes pouvaient rentrer dans une foule avec un camion et tuer plein de gens, ou dans une salle de concert et massacrer des gens. Donc dans l'univers dans lequel on vit, je me dis que peut-être qu'on peut péter un câble à ce point-là. Après, bien évidemment, je suis sceptique, puisque je trouve que cette information manque de sources.
Quel conseil pourriez-vous nous donner pour vérifier une information ?
Alors, pour vérifier une information, moi, ce que je dis toujours, c'est que d'abord, il faut trouver l'auteur. Qui est la personne qui écrit cette information ? Alors, pour trouver l'auteur, souvent, sur Internet, c'est ça le plus dur, parce que dans un livre, on a forcément l'auteur. Mais pour un site, c'est plus compliqué. Pour un site, il faut aller voir dans le bas du site, il faut aller voir les mentions légales ou le contact de l'auteur éventuel. Éventuellement aussi dans « À propos », c'est des rubriques qui sont tout en bas du site où on a le nom de la personne en général ou de l'organisme qui l'a écrit. Et puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut googliser cette personne pour savoir qui c'est. Est-ce qu'elle est vraiment pertinente sur le sujet ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé, fait des études dans le domaine ? Est-ce qu'elle fait autorité ? Ce qu'on appelle faire autorité. Après, ce qu'on peut faire pour vérifier une info, c'est aussi regarder la date. La date, c'est important parce que, notamment pour les photos, des fois, il y a des photos qui sont utilisées mais pour couvrir un événement, mais qui ne datent pas forcément de l'événement, qui datent d'un moment antérieur et qui sont réutilisées pour faire peur, pour donner envie de réagir. Donc, toujours aussi aller voir la date d'une information. Qu'est-ce qui peut être important aussi? Regardez un peu comment le site il est fichu pour voir si c'est bien clair, s'il n'y a pas trop de publicité. Et toujours avoir en tête que, il faut croiser ses sources. Croiser ses sources, c'est-à-dire regarder sur plusieurs sites si on les voit, si on voit la même information. Vérifier que le site sont des sites, ce qu'on appelle institutionnels ou des sites de presse, c'est-à-dire de journalistes, faits par des journalistes pour des journaux. Et non pas des sites de particuliers qui écriraient leur propre blog ou qui ne seraient pas du tout spécialistes de la question.
Cette histoire est-elle possible ?
Alors elle pourrait l'être, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans un monde de fous et que des excès de violence de cet ordre, il y en a de plus en plus dans la société malheureusement. Par contre, la manière dont elle est racontée, ça fait quand même assez fiction. On n'a aucune source, donc on ne sait pas d'où elle sort, cette information. Est-ce qu'elle a été vérifiée? Et puis le fait que le jeune homme n'ait absolument pas de peine ou n'encourt rien alors qu'il a tué une autre personne, là j'avoue que je doute. Donc je pense qu'il faut avoir toujours en tête de se poser la question, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que ça pourrait vraiment arriver? On sait qu'en France quand même un meurtre c'est passible de prison.
Quels sont les indices pour repérer une fake news?
Alors, d'abord, moi, je dirais se poser la question de savoir si c'est possible ou pas. Est-ce que c'est possible qu'on tue quelqu'un pour un stylo quatre couleurs, pour une chocolatine, des trucs comme ça. Surtout que sur Internet, il y en a plein des fausses informations comme ça. Mais c'est pas suffisant parce qu'on n'est pas journaliste nous-mêmes. Donc, nous, en tant que citoyens lambda, ce qu'on peut se demander, c'est qui est l'auteur? Quand est-ce que ça a été écrit? Comment ça a été écrit? Et essayer de mettre en place donc tous les processus pour vérifier l'information. Moi, je dirais que c'est comme ça. Après, il y a des fake news qui sont très, très bien construites. C'est ce qu'on appelle les théories du complot. Et là, il faut avoir un esprit aiguisé et toujours vérifier ses sources en allant voir dans d'autres sites. Voilà. Mais il ne faut pas douter de tout non plus. C'est assez compliqué, en fait.
Mais est-ce que vous imaginez pour un stylo quatre couleurs, quand même?
Eh bien, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, pour une guerre de religion, il y a des gens qui sont capables de...
Oui, mais là, on est sur un stylo quatre couleurs.
Mais je suis bien d'accord avec toi. C'est donc la question de la vraisemblable. De la vraisemblance.
Faille.
C'est-à-dire que ça semble quand même bizarre. On est d'accord. Mais tu peux pas t'en arrêter là. Parce que t'es pas journaliste. Donc c'est pas toi qui vas juger de si c'est vrai ou pas. Mais par contre, tu peux regarder vraiment le site, comment il est fichu, d'où elle vient l'information, qui c'est qui l'a écrit. Et là, si toi, tu mets en place vraiment cette espèce de procédé mental, là, tu peux dire au bout d'un moment si oui ou non tu penses que cette information est vraie. Mais après, c'est toujours une question de point de vue aussi. C'est vrai. Il y aura toujours peut-être quelqu'un pour dire, mais si c'est vrai. Mais c'est à toi de rétablir la vérité. L'indice pour moi qui est flagrant, c'est le fait que la personne en question, elle ne va pas en prison. En France, un crime, puisque c'est un crime quand même, puisqu'il lui plante un ciseau dans la carotide, c'est passible de prison. Enfin, on ne connaît pas des gens qui... Enfin, si, ceux qui ne se font pas avoir. Mais là, en l'occurrence, il est arrêté par la police. Alors du coup, c'est quand même pas possible, si tu veux, qu'il ne soit pas emprisonné.
Peut-être il avait un très bon avocat.
Ah ouais, mais là, c'est un supra-avocat, quoi. Il l'a payé très, très cher. Et l'avocat a payé très, très cher la justice. Non, là, j'avoue, j'y crois pas.
Que pensez-vous des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux?
Alors, les réseaux sociaux, c'est juste un nouveau moyen de partager l'information. Donc, c'est un peu comme partout. Ça peut être à la fois des gens, des journalistes qui publient sur Twitter ou sur Facebook ou même peut-être Instagram ou les réseaux sociaux des jeunes. Mais ça peut être n'importe qui. Donc c'est toujours la même question, c'est la question de qui publie. Qui publie, dans quel contexte, à quel moment. Donc c'est les mêmes réflexes. Moi je dirais que le problème sur les réseaux sociaux, c'est un autre problème, c'est la viralité.
Qu'est-ce que c'est la viralité ?
Alors la viralité, c'est le fait qu'une information se propage comme un virus, si tu veux. Tu vois ce que c'est un virus ?
Oui, je vois.
Bon, et ben du coup, c'est le fait que l'information sur Internet, elle va être partagée encore plus que dans la vraie vie. C'est comme si tu disais un secret à quelqu'un qui va le dire à deux personnes, qui elle-même va le dire à deux personnes, qui va le dire à deux personnes, qui va le dire à deux personnes. Donc c'est le côté pluriel. Ça se propage.
Si c'est partagé plusieurs fois, c'est vrai ?
Et ben c'est ça le problème, c'est que c'est pas parce que c'est partagé ou que c'est liké ou que c'est commenté que c'est vrai. C'est pas parce qu'une vidéo vous l'aimez qu'elle est vraie. qu'elle représente quelque chose de vrai. C'est toujours le même souci. Le souci, c'est de savoir qui publie, pourquoi il publie, quel est son but.
Pour gagner des gemmes.
Pour gagner des gemmes. Bah, tu vois, par exemple, le coût du gemme, pour une information, eh ben, c'est pas parce qu'une information est aimée qu'elle est vraie, tu vois. Donc, le problème, quand on cherche à savoir si une information est vraie, c'est plutôt de savoir qui l'écrit. Voilà. Est-ce que c'est toujours pareil, hein ? Quelqu'un qui maîtrise son sujet, donc quelqu'un qui a fait des études et qui maîtrise le sujet, ou bah, pour une information de foot, est-ce que c'est quelqu'un qui s'y connaît super bien en foot et qui peut en parler ?
Non, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire.
Et si c'est quelqu'un qui n'a rien à faire sur le sujet, et bah, est-ce qu'on peut la retrouver sur un autre site ? Est-ce qu'on la voit plusieurs fois sur un site ?
Et est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ?
Oui, moi j'utilise les réseaux sociaux, mais je n'utilise pas les réseaux sociaux comme vous, je crois. C'est-à-dire que moi je les utilise pour les copains, les soirées, les sorties, pas pour m'informer. Enfin, en tout cas, Facebook, je ne l'utilise pas pour m'informer, parce que je n'ai pas l'habitude. Ah, Twitter, plutôt. Twitter, moi, ça me sert à m'informer, je trouve que c'est pas mal, parce que tu vois toujours qui est la personne qui écrit, tu vois. Donc, il y a un petit logo qui te dit si c'est un journaliste, une radio, une personne publique, voilà. Donc je trouve que, et en plus c'est synthétique, c'est deux phrases, donc après tu peux toi-même aller approfondir ton sujet en allant voir sur internet l'information.
D'accord.
Merci Madame Athanase d'avoir répondu à nos questions.
Sans plus attendre, nous écoutons le morceau Alors de Big Flo et Oli. Restez connectés, on se retrouve tout de suite.
Pour des raisons de droit d'auteur, le morceau initialement diffusé sur Radio Mon País a été supprimé.
Zone critique. Les fake news, on les décortique.
Nous voilà de retour sur Zone critique avec Monsieur Clary. Bonjour. Que pensez-vous de ce fait divers ?
Oh, bonjour. Eh bien, écoutez, ce fait divers, c'est pour moi une histoire qui pourrait tout à fait se dérouler dans la vie réelle. C'est un récit qu'on a entendu plusieurs fois, que ce soit dans les journaux ou ailleurs. Mais rien ne me dit qu'en fait cette histoire-là est réelle. J'ai plutôt l'impression que c'est une fiction en fait qui se rapporte à des faits qui pourraient être réels. Si la question c'est de savoir si c'est une information pour moi ou non, pour moi c'est pas une information. Voilà. Mais en tout cas, le récit me semble réel.
Présentez-vous s'il vous plaît.
Alors je m'appelle Sébastien Claret, je suis journaliste à Radio Mon País. Ça fait une vingtaine d'années que je suis journaliste, ça fait à peine 5 ans que je suis journaliste à Radio Mon País. Et puis je fais aussi de la presse écrite et j'ai fait surtout de la télévision. Voilà, j'ai travaillé comme journaliste reporter d'image dans plusieurs télévisions locales la plupart du temps, à Lyon et puis à Toulouse. Voilà.
Que faites-vous dans la vie ?
Mais donc, je viens de le dire, je suis journaliste à Radio Mon País et tous les matins, je présente un journal qui est rediffusé plusieurs fois sur l'antenne de Radio Mon País. Je présente aussi le Flash et dans le cadre de mon activité à Radio Mon País, je fais beaucoup d'interviews et je fais beaucoup de reportages radio. Voilà. Après, il m'arrive aussi de travailler pour des projets qui n'ont rien à voir avec la radio, des projets plutôt audiovisuels, et puis j'écris parfois pour la presse écrite.
Mmh. Comment êtes-vous devenu journaliste ?
Ben moi, j'ai été à la fac pendant quelques années, et puis j'ai vu que c'était pas trop fait pour moi, la fac, alors j'ai fait une école de journalisme à Lyon. Et j'étais intéressé initialement par l'image et par l'histoire, donc je suis allé vers le journalisme audiovisuel parce que ce qui m'intéressait c'était de fabriquer des images. Et petit à petit, je me suis intéressé de plus près au journalisme. Voilà. Donc en fait, c'est un parcours un peu classique. Hein. La plupart des gens maintenant qui sont dans cette profession-là font une école de journalisme. On arrive encore à rentrer dans le journalisme sans avoir fait d'école de journalisme. Notamment dans des médias un peu spécifiques, thématiques. Lorsqu'on est passionné par une question, on est en capacité d'être journaliste, parce que c'est pas très très compliqué d'être journaliste. Et on arrive encore à rentrer dans ce milieu-là sans passer par le filtre des écoles. Donc moi j'ai fait une école, voilà.
Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ?
Initialement, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais passionné par l'image, et puis après, je me passionnais aussi pour l'actualité, pour Pour l'information au quotidien, j'aimais beaucoup un certain nombre de journalistes que je pouvais lire dans la presse ou de gens que je pouvais entendre à la radio. Et comme j'étais aussi intéressé par tout ce qui touchait un petit peu la politique, le social, l'économie, ça m'a semblé assez évident en fait. À un moment donné, je me suis dit c'est ça que je dois faire. Et je suis rentré par goût du débat d'idées, par goût des idées, des échanges. Et au fil du temps, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait tout au long de ma carrière, en fait, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de rencontrer les gens, leur donner la parole et d'être le médiateur, c'est-à-dire de faire passer un message et de faire passer des informations avec un souci aussi parfois pédagogique. Donc voilà, mais en fait, on se découvre au fur et à mesure qu'on fait ce métier. On le fait de façon soit très précise quand on travaille pour des journaux très thématiques, ou alors on touche un petit peu à tout lorsqu'on travaille pour des médias un peu généralistes. Voilà. Donc on doit s'intéresser un petit peu à tout.
D'accord. Êtes-vous obligé de dire la vérité ?
On essaie, oui. Mais ça, moi, je ne sais pas trop ce que c'est la vérité. La vérité, elle est nécessaire, si tu veux, lorsque tu t'intéresses à des faits. Et donc, si tu restes sur les faits, il faut relater les faits tels qu'ils se sont passés, avec les informations que tu peux avoir et les sources qui t'ont permis d'avoir des informations crédibles, fiables. Mais après, la question de la vérité sur un certain nombre de sujets, c'est une question d'opinion, c'est une question d'avis, c'est une question de grille de lecture du monde. Voilà, donc ça dépend des sujets. Il y a des fois où il faut être très proche de la réalité parce qu'on est sûr dans ce cas-là qu'on est proche de la vérité. Et puis après, sur d'autres sujets, c'est un peu plus compliqué.
D'accord. Où se trouvent les limites entre vie privée et vie publique ?
Alors là, c'est compliqué. Ça dépend de qui tu parles. Si tu parles de personnes que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas célèbres, qui n'ont aucune notoriété, dans ces cas-là, c'est au moment où ils rentrent dans la vie publique que l'on va s'intéresser à eux. Alors, ensuite, il y a des personnages qui ont voulu avoir une célébrité, avoir une certaine notoriété. Et dans ces cas-là, ils la mettent eux-mêmes en scène, leur notoriété et donc leur vie privée devient de la vie publique. Donc c'est parfois un peu difficile pour certaines personnes de faire la différence entre les deux. Généralement, on s'intéresse à l'opinion des gens, à ce qu'ils ont fait. Au-delà de ça, de ce qui se passe chez eux, de ce qu'ils pensent, même à côté de ça, on essaie d'éviter quand même. On essaie d'éviter de révéler avec qui ils sont mariés, de révéler, voire même combien ils ont d'enfants. S'ils veulent pas le dire, ils ne le disent pas. Ça, c'est voilà. Mais c'est toujours un peu difficile dans un certain nombre de sujets.
Comment vérifiez-vous votre information ?
Alors l'information, elle se vérifie en recoupant des sources, en fait. Voilà, tu vas avoir des sources, on va te dire, alors souvent il y a ce qu'on appelle des agences de presse, voilà, l'AFP par exemple, c'est l'agence de presse française, ils vont te donner une information. Cette information, elle émane de l'agence de presse française, donc tu te dis, bon, c'est crédible, c'est une source qui reste crédible. Donc tu vas essayer quand même de confirmer cette information auprès des sources que tu peux avoir, aller chercher des témoignages, aller chercher des contacts que tu as tout au long de ta carrière, tu te fais des contacts, donc tu vas essayer de confirmer cette information-là, et puis tu vas lui donner la crédibilité ou pas. Ensuite, après, tu as des témoignages. Et puis tu vas sur le terrain aussi. Sur le terrain, ça apporte aussi pas mal de choses parce que tu peux recueillir justement des témoignages de gens qui ont vécu des scènes ou qui ont vécu un événement en particulier. Et tu les intègres dans ton information. Et puis aussi, il y a des journaux qui sont plus ou moins fiables. Alors ça ne veut pas dire, si tu veux, qu'ils disent tous la vérité, si tu veux, qu'ils sont au plus près de la vérité. Mais tu peux quand même essayer d'avoir un maximum de sources pour te garantir de la crédibilité, de la fiabilité d'une information. Voilà, c'est ça. Il faut recouper ces sources, en fait. Voilà. Mais elles sont faites de plein de choses. Elles viennent d'un peu partout, les sources.
Quelles sont vos règles de déontologie ?
En fait, il y a une charte de déontologie quand tu es journaliste, normalement. Bon, ça, c'est sur le papier. Mais la déontologie, si tu veux, c'est d'essayer, comme je le disais, d'être au plus près de la vérité, d'être au plus près du réel et de ne pas mentir, de ne pas stigmatiser, de ne pas guider les gens sur une voie qui serait fausse. Et de laisser aussi s'exprimer au maximum les opinions d'où qu'elles viennent. Voilà. Ça, c'est la déontologie d'un journaliste, normalement. Et puis d'offrir aussi une grille de lecture qui ne soit pas stigmatisante, qui ne soit pas insultante. Voilà. Mais enfin, il y a plein de points sur la déontologie. Voilà.
Est-ce que vous utilisez Internet et quel site ?
Oui. Ah, Internet, on utilise maintenant tous Internet, en fait. C'est indispensable, presque. Y a des sites, si tu veux, qui sont fiables. Et puis, il y a des sites qui le sont moins. Moi, je sais que il y a toute une catégorie de sites auxquels je me réfère parce que je sais que derrière, il y a des journalistes qui travaillent et qui font un vrai travail, qui recueillent des informations, qui sont sourcées et tout ça. Et puis, il y a des sites ou des réseaux sociaux sur lesquels je ne fais absolument pas confiance. Voilà.
Lesquels ?
De réseaux sociaux ?
Oui.
Par exemple, Facebook. Voilà. Moi, Facebook, je ne fais pas confiance en Facebook. Si je dois faire confiance à Facebook, je fais un travail de recherche, en fait, de source, pour savoir si l'information qui est véhiculée dans Facebook, sur Facebook, est crédible ou pas. Parce qu'on peut mettre ce qu'on veut sur Facebook, on peut écrire à la façon d'un journaliste sur Facebook pour faire croire que ça émane d'un journal. On peut manipuler l'opinion assez facilement. Alors, la manipulation de l'opinion, c'est pas parce qu'il y a Internet que la manipulation de l'opinion existe. La manipulation existe à partir du moment où quelqu'un s'exprime. Enfin, je veux dire, depuis qu'on écrit, on peut manipuler les gens. Depuis qu'on fait des photos, on peut manipuler les gens. Depuis que l'imprimerie existe, on peut manipuler les gens. Aujourd'hui, on a tendance à accuser Internet de tous les maux. Les fake news, comme on dit aujourd'hui, c'est pas essentiellement dû à Internet. La fausse nouvelle, elle a toujours existé. Maintenant, le problème de Facebook, c'est que ça se répand à une vitesse assez rapide, folle, et qu'on a du mal à contrôler la diffusion de ces informations, qui sont souvent des fausses informations, et c'est parfois très bien fait. On a vraiment l'impression que ces fausses informations sont de véritables informations. Donc il faut être très vigilant quand on est sur Facebook. En plus, tout le monde va sur Facebook, c'est ça le truc.
Où vous informez-vous et sur quel support ?
Alors moi, le plus souvent, je m'informe par des agences de presse, par des communiqués de presse, d'associations, de syndicats, de partis politiques, et puis ensuite par des journaux, par la presse écrite, beaucoup. Souvent, le matin, je me lève et je lis plusieurs journaux, et puis je fais ma revue de presse, je fais la hiérarchie de l'information, je choisis quel sujet va être en premier dans mon journal et quel sujet sera en dernier. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que font tous les journalistes et dans toutes les rédactions, on fait comme ça.
Êtes-vous obligé de demander l'accord d'une personne pour publier des informations la concernant ?
Oui, tout le temps, oui. Alors que ce soit en radio, mais en radio... Souvent, on leur donne la parole, hein, on leur tend le micro, on les appelle. En télévision, là, il faut avoir le consentement de la personne pour qu'elle soit filmée ou pas. Elle peut très bien vouloir témoigner, mais ne pas être filmée. Dans ce cas-là, on s'arrange. Et en presse écrite, oui, souvent, on est obligé, parce qu'on ne peut pas faire parler les gens sans qu'ils nous... à leur place. Mettre des mots dans la bouche de quelqu'un, ça ne se fait pas. Ça fait partie de la déontologie, par exemple. Alors bon... Il y a des couacs, hein. Ça se passe pas toujours très très bien. Mais oui, on est obligé, oui, bien sûr. Sinon, pour avoir un procès, on peut nous faire des procès.
D'accord.
Hein, en diffamation, des choses comme ça.
Vous êtes-vous déjà auto-censuré ?
Non, jamais. Alors, jamais, mais moi, je me suis jamais censuré. Mais par contre, lorsque tu travailles dans un média, il y a une ligne éditoriale. Et donc cette ligne éditoriale, tu en épouses les contours. La ligne éditoriale, si tu veux, c'est une... on va dire qu'on parle de certains sujets avec un certain prisme, avec une certaine grille de lecture. Et puis après, il y a aussi, par exemple, des choix éditoriaux. C'est-à-dire que tu as pensé faire un sujet sur telle personnalité ou tel événement. Mmh. Et puis, dans le cadre d'une réunion de toute la rédaction, ou soit parce que plus haut, on te dit non, c'est pas le bon moment. Ou on va pas le placer à cet endroit-là, ou on va le traiter d'un autre angle, parce que ça pourrait éventuellement être gênant pour ceci, pour cela. Mais ça se passe partout. D'accord. Voilà. Il faut pas croire qu'il y ait une espèce de liberté totale. Ça, c'est ça. On est libre de faire de la presse en France, on est libre de dire ce que l'on veut en France, mais par contre, quand tu travailles dans un journal, il faut être très clair. Tu travailles aussi pour des gens qui sont financés par des annonceurs, des publicités, donc il y a des intérêts. Il y a dans un journal ou dans un média une ligne éditoriale, il y a une pensée politique. Et donc souvent, des fois, on se confronte à ça. Alors on se bat à l'intérieur, on dit non, moi je veux le dire comme ça, je veux le faire comme ça, je veux, voilà. Et des fois ça passe, des fois ça passe pas.
Comment faites-vous pour avoir un travail de qualité au quotidien ?
Ouais, c'est compliqué ça. Surtout ici en plus. C'est particulier ici, tu sais. Non, mais c'est compliqué partout en fait. C'est compliqué partout parce que la fabrication de l'information, ça nécessite beaucoup de temps. Et ça va très très vite, l'information va très très vite. Donc il faut qu'on fabrique de l'information, moi je dis qu'on fabrique de l'information. De façon de plus en plus rapide. Et donc tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, vérifier les sources, essayer d'avoir les bonnes personnes au bon moment, ça prend beaucoup 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 de temps et ça demande aussi des moyens et ça aussi ça demande de l'argent et forcément il y en a pas forcément beaucoup de l'argent pour faire un travail en profondeur, un travail de qualité. Donc voilà, on arrive à faire son travail, si tu veux, c'est pas la question. Mais pour faire quelque chose où tu te dis, ouais, là, nickel, quoi. J'ai été, c'est quand même, il faut du temps, quoi. Il faut beaucoup de temps, il faut des moyens, il faut, voilà. Donc, en fait, le problème de l'actualité, c'est que ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Et plus ça va vite, et plus il faut du monde pour faire l'information, enfin, pour la relayer. Et ça, c'est un peu compliqué.
Et combien de temps mettez-vous pour publier l'information ?
Ça dépend. Si je suis sûr de ce que je vais dire, c'est assez rapide. Surtout avec Internet maintenant, en plus. Je peux. Mais si je ne suis pas sûr de l'information que je dois délivrer, je prends le temps. Voilà. Moi, ça, c'est par contre, c'est le luxe que je peux avoir ici. Si tu travailles à BFM ou à CNews, là, c'est pas la peine. Là. Il faut être à l'instant T le premier à dire l'information. Alors souvent, parfois, on va dire, on va pas dire souvent, mais les journalistes sont amenés à dire des bêtises à ce moment-là. Parce que, surtout quand il y a un événement à chaud qui vient de se dérouler, qui vient de se passer, et qu'on envoie un journaliste sur place, les informations et les sources d'informations sont assez maigres. Et souvent, on meuble. Et en essayant d'occuper l'antenne, parce qu'il faut diffuser quelque chose, quoi qu'il arrive, il arrive parfois qu'on dise des grosses bêtises. Voilà. Mais parce qu'on réagit très vite, trop vite à l'information. Donc quand tu as le temps de vérifier ton information, tu y vas. Mais si t'as pas le temps, il vaut mieux attendre un peu et être sûr de ce qu'on dit. Quoi.
Voilà. Vous le faites souvent ?
Moi, oui, si, c'est un luxe que j'ai. Ouais. Ouais. Moi, ça, je peux le faire. Ouais.
Comment s'organise votre journée ?
Moi, j'arrive très, très tôt le matin. J'ai les journaux. J'épluche tous les journaux. Je regarde les communiqués de presse qu'on m'envoie. Alors, en amont, si tu veux, la veille, je sais un petit peu ce qui va se passer. Et alors moi c'est particulier parce que moi mon journal il est thématique, c'est-à-dire qu'il ne concerne que les questions sociales et syndicales et politiques. Donc voilà, je ne m'occupe pas du sport, je m'occupe pas de la culture, je m'occupe que très rarement de l'économie. Bon, et donc c'est assez ciblé, voilà. Et donc généralement je fais ça. J'ai fait en amont des interviews, donc je vais monter. Et je vais écrire mes lancements, mes retours antennes, voilà. Bon, tout ça, c'est des mots techniques, mais... Et puis, ensuite, à 7h45, je suis en direct, j'ai un technicien, et je suis là, à la place où vous êtes, et puis je fais mon journal, voilà. Et ensuite, je fais un flash. Un flash, c'est quelque chose de beaucoup plus court, Ce sont les principales informations à diffuser, traitées de façon assez brève, c'est 2 minutes, et c'est diffusé à peu près toutes les demi-heures ou toutes les heures, je ne sais plus. Donc voilà, ça c'est ma journée. Et puis après, une fois que j'ai terminé ça, ben, je prépare la suite. Donc je téléphone à des gens pour savoir, je sais que bon ben voilà, demain il va y avoir telle information, moi j'ai besoin d'avoir une réaction à cette information, par exemple une loi va être votée, ou il va y avoir une manifestation, ou il va y avoir une grève, je sais qu'il me faut une information sur ce qui va se passer, eh bien j'ai un carnet d'adresses, et là je téléphone aux personnes, et je leur pose des questions, ou je me rends sur place, voilà.
Comment accroche-t-on l'auditeur ?
Comment accroche-t-on l'auditeur ? Oula, je sais pas, moi ça je sais pas faire. Je sais pas comment on accroche les auditeurs. Il y a des gens qui peuvent accrocher des auditeurs en faisant certaines choses que moi je réprouve. Et puis après tu peux faire confiance aux auditeurs en disant ils sont un peu intelligents et donc s'ils font un peu d'efforts, eh bien ils t'écouteront. Voilà. Si tu veux, on peut tomber dans la facilité et attirer beaucoup de gens parce que c'est facile, parce que c'est rigolo, parce que c'est décalé et tout ça. Moi c'est pas ça m'intéresse pas forcément ça, voilà. Après il y a des formes d'information aussi, il y a des façons de faire aussi qui peuvent attirer les gens si tu veux, voilà, il y a des formats, mais voilà.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Ben c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Notre émission touche à sa fin, ça va être bientôt l'heure de vous quitter. Faites attention aux informations qui peuvent cacher un mensonge, par exemple ce fait divers survenu était un fake.
Ben alors, on s'est fait avoir.
J'avais raison.
N'oubliez pas, restez dans votre zone critique. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Radio Montpace 90.1. Au revoir.
Zone critique, les SECPA décortiquent l'info.
Zone critique, les SECPA décortiquent l'info.
Cette émission a été réalisée au terme d'un atelier mené en partenariat avec Radio Montpaïs au collège Jean Moulin avec la classe de 3e SECPA de M. Xavier Moll. Nous avons travaillé autour de la critique des médias, la découverte du métier de journaliste et la déconstruction des phénomènes de rumeurs. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes les émissions réalisées par Alexandra Josse pour l'association Médias Communs Occitanie lors d'ateliers d'éducation aux médias et à la libre expression sur ondescourtes.fr. Plus d'infos, médiacommun.fr.